autour de la question.
D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, avant toute chose, je voudrais dédier cette émission à notre ami, à notre confrère, à Mobé Mévégué. Une lumière, à RFI, comme à TV5 ou France 24, vient de s'éteindre. Amobé vient de décéder, à l'âge de 53 ans, d'un palu foudroyant. Nous sommes atterrés, nous pensons à lui, nous pensons aux siens, au Cameroun, à Paris. Des hommages sont bien sûr à suivre sur notre antenne. Que la terre lui soit légère, Amobé, tu es avec nous, dans notre cœur. Chers amis auditeurs, merci d'être là avec nous pour interroger précisément aujourd'hui, c'est ainsi, notre humanité et notre créativité pour réparer les vivants que nous sommes. Tous ceux qui, à la naissance ou suite à un accident ou à une maladie, se sont retrouvés handicapés. Pourquoi et comment refaire la très longue histoire des prothèses de l'humanité avec nos invités? L'archéologue Valérie Delattre, qui en a retrouvé des traces jusque dans les plus anciennes sépultures, mais aussi dans nos mythes fondateurs. Et avec Riyad Salem, athlète paralympique de haut niveau, champion de basket fauteuil, mais surtout entrepreneur, consultant, militant associatif et artiste. Tous deux viennent de publier un fascinant et formidable ouvrage collectif, tout simplement intitulé « Prothèses », un voyage au cœur de l'ingéniosité humaine, depuis la préhistoire jusqu'aux laboratoires de robotique les plus pointus, des attelles en bois de fortune jusqu'aux lames de titane. Jusqu'où peut-on, va-t-on aller dans la réparation, dans l'appareillage, dans la prise en charge, dans le soin, mais aussi dans l'amélioration et l'augmentation de l'humain. Alors que nous fêtons les 54 médailles, rien que ça, de nos champions aux Jeux paralympiques, on pourra aussi s'interroger sur cette injonction à être héroïque ou à ne pas être quand on est handicapé. Comment pourrions-nous tous gagner en humanité si seulement on regardait en face les autres, ceux qui sont différents mais qui ont en commun la vulnérabilité, cette si humaine faiblesse qui est aussi notre force, haut les cœurs donc. Autour de la question comment réparer les vivants, avec une première piste de réponse du côté du Kenya, où deux jeunes entrepreneurs, David Gatou et Moses Kinua, recherchent toujours des fonds pour la prothèse de bras en bois recyclé qu'ils ont conçu, reliée à un casque qui convertit les signaux du cerveau en courant électrique. Reportage à découvrir sur notre page Facebook et à écouter ici et maintenant. Bienvenue.
Nous avons grandi ensemble et nous avons vu que les personnes vivant à handicap dans les villes et les villages rencontrent beaucoup de difficultés dans leur mobilité quotidienne et dans la réalisation de leurs activités quotidiennes.
The reason why we designed this by robotic hand is because we wanted to help those people who have.
La raison pour laquelle nous avons conçu cette main biorobotique est que nous voulions aider les personnes qui ont perdu l'usage de leurs membres, les personnes handicapées. Notre objectif est de leur donner quelque chose qui les aidera ou les assistera dans leurs activités quotidiennes pour passer de la dépendance à l'indépendance.
Dependent person to move from a dependent person to an independent person.
But such invention of prosthetic arms.
De telles inventions de bras prothétiques avec un tel niveau de technologie contribueront grandement à améliorer notre économie en termes de production, mais aussi à les rendre plus acceptables par la société. Il n'est pas encombrant, il est plus facile pour les personnes handicapées de le manipuler. Ça change vraiment la donne en termes d'amputation et de réhabilitation.
Rappelons tout de même que Moses Kinua et David Gatou cherchent toujours des fonds pour produire leurs bras robotiques à grande échelle au Kenya, où plus d'un million de personnes vivent avec un handicap physique et ont besoin d'une prothèse. Prothèse au pluriel, écrit en lettres dorées sur la couverture de ce superbe et instructif ouvrage, paru dans une collection autoproduite, Défi de civilisation. Je suis vraiment contente de vous recevoir en direct tous les deux, Valérie Delattre et Riyad Salem, autour de cette question, comment réparer les vivants? Bonjour Valérie.
Bonjour.
Bonjour Riyad.
Bonjour.
Ça fait longtemps qu'on avait envie de vous réunir tous les deux en plateau, car vous collaborez tous les deux depuis plusieurs années. Vous, Valérie Delattre, l'archéologue, spécialiste du handicap à l'INRAP, et vous, Riyad Salem, le militant associatif, champion paralympique de basket en fauteuil, musicien, artiste, et j'en passe, et de rugby. Mais oui, pourquoi j'oublie le rugby? De rugby en fauteuil également. Vous avez donc publié cet ouvrage collectif, en faisant appel à tous les chercheurs que connaît Valérie et à tous les sportifs et athlètes et artistes que connaît Riyad, cet ouvrage collectif donc sur la longue histoire des prothèses, indissolublement liée à l'histoire de notre humanité. C'est un peu presque, enfin c'est pas l'aboutissement, mais c'est une pierre de plus à votre chemin commun, parce que Valérie Delattre, je crois que c'est un peu à cause ou grâce à Riyad Salem que vous êtes devenue l'archéologue spécialiste du handicap que l'on connaît. Vous avez découvert des traces de soins, de prothèses dans les temps les plus reculés, jusque dans nos mythes aussi, fondateurs des dieux héros à qui il manquait quelque chose. Est-ce qu'il ne manque pas toujours quelque chose à l'humain? On y reviendra. Mais racontez-nous comment c'est Riyad, ici présent, qui vous a mis sur ce chemin-là de l'archéologie.
Alors c'est totalement grâce à Riyad que j'ai rencontré il y a une quinzaine d'années et auquel je racontais les arcanes de mon métier. Je fouille des sépultures, donc je fouille des morts, et ça lui semblait très suspect. Que fait-on avec des morts? Quel discours on peut avoir avec des squelettes? Et donc, je racontais que je travaillais sur les pratiques, les rites, les cultes, la démographie, enfin des choses très institutionnelles. Et il m'a coupé la parole en me disant, c'est très bien tout ça, mais les gens comme moi, avant, cet avant qui n'a pas de chronologie, qui erre entre Néandertal et maintenant, c'était comment avant? Et j'étais bien en peine de lui répondre parce que mes études m'avaient fait lire quelques philosophes grecs qui parlaient de l'eugénisme spartiate et athénien. J'avais dû fouiller un ou deux sujets bossus, un petit peu estropiés, mais je n'avais aucune idée de quelles pouvaient être non seulement les pathologies lisibles, les pathologies invalidantes et les comportements, puisque quand on fait de l'archéoanthropologie, on essaye de travailler sur les comportements des groupes, les liens d'homme à homme, et je n'en avais vraiment aucune idée. Alors quand on a un champion face à soi, il vous lance un défi, et donc il m'a proposé de réunir un collectif de chercheurs qui auraient été tout aussi curieux et inventifs et audacieux, et pour réaliser un premier ouvrage. Donc je suis allée voir la direction scientifique de l'INRAP et je leur ai dit, je vais laisser un petit peu les Gaulois de côté, je vais laisser un petit peu les Mérovingiens de côté pour travailler sur cette thématique transversale.
Du handicap, du soin.
Du soin.
Et au fond, de l'humanité. Parce que là, je reviens vers vous, Riyad Salem, mais tout de même, ce que vous nous proposez dans Prothèse ou dans ce premier colloque qui s'intitulait, je crois, Décrypter la différence, ce que vous proposez, ce que vous avez proposé à Valérie Delattre, c'est de revisiter l'histoire de notre humanité à travers justement, je n'ai pas envie de dire le handicap, mais au fond le soin qu'on a porté à l'autre, parce que Valérie Delattre n'a cessé de trouver des preuves, des traces du soin qui a été apporté à celui à qui il manquait peut-être quelque chose. Et je dis bien peut-être, c'est ça?
C'était une question qui était un peu très... très naturel. Quand elle me parlait, moi, ça me faisait peur, le fait qu'on déterre des morts, les esprits. Il y avait tout un mythe, une légende. Et je ne voyais pas pourquoi on embêtait ces pauvres gens. Et quand elle m'a expliqué toute cette source d'informations qui permettait de comprendre notre présent à travers nos histoires, et là, ça a été vraiment naturellement, de manière très innocente. Mais comment c'était pour nous avant, quoi, les personnes handicapées? Il se passait quoi? Qu'on entendait ou ce qu'on pressentait, c'était quelque chose qui n'était pas forcément très joyeux, très joli. Et en fait, ça a été ce défi, en disant, si tu me trouves des éléments, on fait un ouvrage, on monte un colloque, on fait des grands trucs.
Et quand vous disiez, quand vous lui avez posé la question, Riyad Salem, qu'est-ce qui se passait pour eux? Rappelons peut-être votre histoire, votre parcours à vous. Vous êtes né, vous êtes aujourd'hui amputé des deux jambes et avec des malformations au bras. Vous vous déplacez en fauteuil, mais là, vous êtes dans notre fauteuil à la radio. Vous avez des dreadlocks, parce que je sais que vous êtes un grand amateur de reggae et de Bob Marley. Vous êtes devenu champion, vous n'étiez pas au départ, mais ce handicap à la naissance vient d'une malformation et vient d'un médicament, c'est ça, la thylamide, absorbée par votre mère en Tunisie.
Ouais, c'est la grande époque du distilbène et de la thalidomide.
Thalidomide.
Voilà, et donc ça a fait beaucoup de mamans, soit qui sont décédées, soit avec des enfants qui n'ont pas pu naître, ou des enfants qui naissent avec des malformations. Voilà, selon, c'est vrai que c'est un questionnement de savoir bah, notre humanité, elle a cette capacité. Et on le voit que dans toutes les sociétés, dans toutes les civilisations, on ne prend pas en charge le handicap de la même façon. Et donc, cette curiosité, elle était, je pense, légitime par rapport à mon histoire aussi. Donc, quand je posais la question à Valérie, ça se passait comment avant pour les personnes handicapées ? C'était, bah, à cette époque-là, imaginons que je sois né. Et je sais que malheureusement, aujourd'hui, encore dans le monde, bah, selon le pays dans lequel on vit, on n'est pas pris en charge de la même façon, on n'a pas les mêmes chances. Et donc, c'était important aussi de montrer que dans les civilisations, dans les âges qui étaient chez nos anciens, nos origines, bah, cette prise en charge des plus vulnérables, elle était là, elle était présente, elle a toujours existé. Et elle a toujours eu cette espèce de yo-yo où, à un moment donné, bah, on oublie que notre force vient de notre vulnérabilité et l'univers, le monde, la nature nous rappelle à l'ordre. Et donc là, c'était vraiment intéressant de pouvoir mettre quelque chose qui est scientifique, avec des chercheurs qui ont des preuves, des traces, et qui peuvent expliquer de manière très ludique pour faire évoluer un petit peu les mentalités et ne pas laisser ces légendes urbaines ou historiques continuer à se diffuser. Parce que bah, oui, c'est vrai que dans un siècle, il y a peut-être 10 ans, 15 ans de vilaines choses, mais peut-être que tout le reste, les 15 ans qui restent sont peut-être extraordinaires,
résolument,
mais on n'en parle
optimiste.
Pas.
Voilà, on n'en parle pas. C'est une manière aussi, hein, ce livre prothèse, cette archéologie du handicap, cette longue histoire de l'humanité. C'est aussi une manière de mettre en avant notre ingéniosité, l'ingéniosité humaine, le fait de se débrouiller, l'empathie aussi, évidemment, autour de la question depuis quand et comment réparer les vivants. Tout de suite, une première question pour vous, Valérie Delattre, soulevée par ma confrère de Cerveau et Psycho, Cécile Lestienne.
D'abord, je voulais savoir quelle était la plus vieille prothèse, ou ce qu'on peut interpréter comme une prothèse, que l'on n'ait jamais retrouvée. Et j'ai une autre question, je voudrais savoir, est-ce qu'on peut imaginer que nos ancêtres, à un moment, aient utilisé des prothèses dont il ne resterait aucune trace ? Des prothèses en matériaux qui ne se fossilisent pas ou qui ne se conservent pas ? Voilà, est-ce que vous avez des hypothèses sur la question ?
Votre réponse, Valérie Delattre.
Alors, bien sûr, il y a des prothèses qui datent depuis des temps immémoriaux, parce que pour qu'il y ait prothèse, il faut qu'il y ait corps abîmé, il faut qu'il y ait amputation. En l'occurrence, des squelettes portant des traces d'amputation, on en connaît depuis Néandertal. Mmh. Donc, on est 45 000 ans avant notre ère, on a la trace d'un sujet qui a 40 ans, qui vivait en Irak et qui a été amputé d'un avant-bras. On n'a pas de prothèse, si tant est qu'il ait été appareillé, parce que à l'évidence, et comme le dit votre confrère, la plupart des prothèses sont en bois ou en matériaux périssables.
Donc, alors, on ne se garde pas.
Sous nos latitudes, le bois ne se conserve pas. Et c'est pour ça qu'on va faire un grand saut en Égypte, où pour le coup, autour des momies, les prothèses se conservent. Donc, on a des prothèses de 1500 ans, 2000 ans avant notre ère. Des prothèses qui sont à la fois fonctionnelles, pour aider à la marche, à la déambulation, de façon très classique, c'est des prothèses assez modernes, et on a des prothèses qui sont esthétiques, qui servent à la complétude des corps, puisque dans l'au-delà, si on n'était pas complet dans le monde réel, il fallait qu'on le soit dans l'au-delà. Donc on trouve aussi des prothèses qui n'ont jamais servi, qui sont des prothèses pour la complétude des corps. Donc déjà,
c'est
les Égyptiens avaient cette démarche-là.
Ça raconte aussi une autre histoire de nos ancêtres, parce qu'on se rend compte qu'il peut aussi avoir un aspect esthétique.
Exactement.
On a quand même toujours cherché, alors c'est réparé, amélioré, mais enfin, qu'est-ce qui n'est pas à réparer ? Je ne sais pas, ça c'est moi qui dis. Et puis c'est aussi une histoire du soin apporté à l'autre. Et dans nos sociétés aujourd'hui, on se dit, tiens donc, ça existait déjà.
C'est pour ça que moi, j'utilise volontiers dans notre démarche le terme d'éclairer. C'est un éclairage, ce que l'on fait sur les temps passés, qui éclaire nos propres comportements. C'est jamais une archéologie qui est poussiéreuse et figée dans l'entre-soi des colloques, des tables rondes. C'est passionnant, la typochronologie, l'archéologie matérielle, la culture, c'est passionnant. Mais pouvoir y mettre du sens. Et en fait, la question de Riyad qui a tout fondé, c'était le sens derrière mes grilles d'archéo-anthropologie, de travailler sur la vulnérabilité de gens anonymes, comme de gens très célèbres. Le plus grand célèbre handicapé du monde, c'est Toutankhamon, quand même.
Donc, comment
ce jeune garçon qui boitait, qui avait quand même un lignage consanguin assez fort, donc il n'était pas au top de sa force, et qui est mort très jeune d'ailleurs, mais c'était le premier à marcher avec des cannes. Donc on a des personnages très célèbres, on a la reine Arégonde, la reine mérovingienne, mais on a surtout la grande cohorte de ces gens anonymes que je fouille, auxquels je restitue une identité et leur vulnérabilité, est passionnante parce qu'elle a toujours été prise en charge par leurs proches. Alors, ce n'est pas une archéologie non plus avec des lunettes roses, mais c'est fascinant de voir combien la faiblesse, la vulnérabilité, le déficit...
ça peut être parfois la difficulté à manger.
Mais complètement,
ça peut être, c'est ça. Hein, on
trouve l'édentement complet participe de la reconnaissance des handicaps aujourd'hui à l'OMS, par exemple. L'édentement complet chez Néandertal ou au Néolithique, il existe et ça suppose la première aide, la première prothèse, c'est l'humain qui aide son contemporain. Donc l'aide à la mastication, c'est le premier soin que l'on peut imaginer quand on découvre des squelettes avec des édentements complets. Donc les prothèses ne laissent pas forcément de traces, mais les squelettes laissent des traces d'une aide que l'on peut réinterpréter. Mais en tous les cas, on a des prothèses avec du métal à partir du Moyen-Âge. Et je pensais, en écoutant les deux jeunes inventeurs du Cameroun,
oui,
je me disais...
Du Kenya,
serait,
il doit y en avoir aussi, probablement, au Cameroun.
On serait, je pense à votre collègue,
oui,
on serait RFI 16e siècle, on aurait Ambroise Paré qui nous aurait fait état de ses inventions, de son ingéniosité pour inventer des nouvelles prothèses qu'il voulait légères, avec des matériaux nouveaux, du textile, du cuir, des crémaillères pour plier les doigts, pour rendre le quotidien avec les mêmes mots que les deux jeunes inventeurs, aisés, faciles, etc. Et donc, en fait, voilà, c'est un maillon de plus à cette longue chaîne que je m'attelle à restituer avec un éclairage contemporain, avec une exigence forte. Et c'est fascinant, puisque ça donne une grille de lecture qui est au cœur et dans l'intimité de l'humain. Et
de l'humain, absolument. Riad Sanem, vous vous attendiez à ça quand vous avez posé cette question-là, il y a quelques années, à Valérie Delatte? Qu'en était-il de nous avant, nous, les handicapés, avec tous les guillemets que l'on peut mettre? Vous vous attendiez à ça parce que c'est un vrai voyage dans notre humanité, dans ce qui la fonde? Parce qu'est-ce que... Il y a une sociologue qui dit ça d'ailleurs, je crois que nous sommes tous des handicapés en puissance, et est-ce qu'on n'est pas tous en manque de quelque chose? Enfin, c'est un regard très instructif, pour le coup, sur le meilleur de notre humanité.
Pour être honnête, je m'attendais à rien du tout de particulier. c'était vraiment une question, comme je disais tout à l'heure, très innocente. Et là où je suis subjugué, c'est toutes les conséquences, les effets collatéraux d'une question qui engendre ce travail de qualité d'orfèvre et qui re-questionne la condition humaine, qui repositionne dans l'espace-temps notre humanité. Et ça, oui, c'est assez bluffant de se dire que, en fait, un truc très simple, une rencontre, et qu'on se retrouve avec des ouvrages de ce niveau-là, avec des cerveaux génies, du grand génie, dans tous les pays du monde.
Rappelons que c'est vous qui avez coédité donc avec votre association cet magnifique ouvrage prothèse illustré, argumenté par de nombreux chercheurs, par des athlètes de haut niveau que vous avez contactés.
Des athlètes, des journalistes, des responsables aussi, des encadrants du mouvement handisport paralympique. Voilà, il y a tout un écosystème qui ont contribué.
C'est ça, et c'est aussi une manière de relier, c'est aussi une manière de rendre visible tous ces invisibles qui pourtant ont énormément à nous apprendre. Moi, en lisant cet ouvrage prothèse, je me disais constamment, ok, c'est des prothèses qu'il faut pour des gens qui ont besoin qu'on les soutienne, mais découvrir la profondeur dans le temps, l'humanité sous cet angle-là, c'est une leçon pour nous aussi. Moi, j'ai des prothèses, hein, j'ai des lunettes là sur les yeux, mais bon, ça c'est...
Oui, alors si on revient un peu dans l'absolu, alors juste pour signaler que cet ouvrage avec l'INRAP et la Fondation Ibsen qui nous a vraiment soutenus pour pouvoir éditer, c'est quelque chose de collectif. Et ce questionnement de se dire, en gros, évidemment, on prend un sujet qui est la prothèse, mais comme vous l'avez dit, quelque part, tout est prothèse dans l'humanité. C'est-à-dire que nos voitures, nos téléphones, nos maisons, nos vêtements,
ce
sont des prothèses.
Les télécommandes.
Les télécommandes, absolument.
Oui, mais en fait, si on était l'espèce qui n'avait besoin de rien, on aurait une super fourrure, on pourrait voler, courir, sauter, aller sous l'eau. Cette espèce-là n'existe pas. C'est l'homme qui l'a créée à travers ses prothèses. On peut aller sous l'eau.
Pour le meilleur comme pour le pire, d'ailleurs.
Créer des sous-marins, hein. Évidemment. C'est bien... En fait, ce qui est terrible dans notre humanité, c'est qu'on a l'ombre et la lumière, et des fois, l'ombre écrase un peu la lumière, elle ne lui laisse pas la place pour prendre son relief. Et ça, c'est assez dommage et dommageable pour notre humanité. Mais quand on reste dans cette vision de l'humain, de cet esprit de solidarité, d'accompagner, de réparer. Alors la prothèse, elle est au bon endroit. Mais c'est sûr que des fois, quand on utilise des prothèses pour détruire l'autre, à grande échelle, c'est vraiment le plus grand regret qu'on peut avoir pour notre espèce et toute cette intelligence.
Du bon côté de la prothèse, on va dire, hein, autour de la question comment, depuis quand et comment réparer les vivants. Je l'ai dit, vous êtes alors champion de natation, de basket et de rugby fauteuil, Riyad Salem, mais pas seulement. Vous avez participé de nombreuses fois aux Jeux Paralympiques, vous vous entraînez, on va en reparler pour ceux de 2024 à Paris, mais vous êtes aussi et surtout peut-être militant associatif, entrepreneur et même organisateur de sacrés festivals de musique. Et vous nous faites découvrir des artistes hors pair et bien trop invisibles, justement, comme tout de suite Karim Albert Cook sur RFI dans un sacré blues. À entendre dans tous les sens, je roule vers toi sur RFI. Question comment réparer les vivants sur RFI. On écoute Karim Albert Cook. Je roule vers toi en fauteuil comme vous, Riyad Salem. Quoique vous n'êtes pas toujours en fauteuil, mais quelle voix incroyable. Pourquoi est-ce qu'on n'entend pas un peu plus Karim Albert Cook, dites-moi.
Mais parce que je pense que dans notre pays, on a souvent cette fâcheuse habitude de mettre des gens dans des cases. Et c'est du handicap. Voilà, si on ne rencontre pas le bon producteur, la bonne personne... Quel que soit votre talent, c'est difficile d'émerger, d'exister dans notre système.
Rappelons que c'est dans votre festival que Grand Corps Malade a fait sa première scène, si je ne m'abuse.
Sa grande scène, mais il avait fait d'autres scènes. Mais c'est vrai que chez nous, il avait face à la Tour Eiffel et il nous a rendu un grand hommage en revenant l'année d'après. Voilà, c'est un homme extraordinaire. Et le talent, au fait, il faut juste écouter, vibrer, avoir des frissons et après lui donner l'occasion et la chance de s'exprimer, quoi.
Autour de la question comment réparer les vivants, alors cette chanson s'intitulait « Je roule vers vous ». Vous avez votre fauteuil roulant juste à côté, Riyad Salem, vous êtes assis sur notre fauteuil. Quand vous êtes dans les Jeux paralympiques, vous êtes en fauteuil, mais vous avez aussi des prothèses pour vous tenir debout. Vous m'avez dit, et ça je trouve ça assez intéressant, que réparer les vivants, faut savoir comment les réparer. Et qu'il faut demander à l'intéressé, à l'individu lui-même, ce qu'il en pense. Parce que vous êtes plus à l'aise et plus indépendant en fauteuil qu'avec des prothèses.
Je me sens beaucoup plus autonome. En fait, la prothèse, elle est importante. Comme disait tout à l'heure Valérie, il y a dans l'histoire de la prothèse, il y a la prothèse qui répare, qui compense, et il y a la compensation aussi de l'esthétisme, parce qu'on est dans des cultures, dans des codes, et que bah, si vous ne ressemblez pas à telle ou telle personne, et je sais que moi, pendant plusieurs années, j'étais dans des établissements où la culture de la verticalisation, elle était très, très importante.
La culture de la verticalisation, il faut être debout. Pour être un homme, il faut être debout.
Okay. Et je peux le comprendre quand quelqu'un a eu un accident, avait des membres avant, qui veut retrouver cette apparence. Pour des gens qui ne l'ont jamais eu à la naissance, c'est déjà très difficile. Et en fait, quelque part, c'est ne pas accepter ce qu'est la personne dans son être. Et ça, je trouve que c'est dommage. Parce que c'est ceux qui ont envie d'être debout, il faut les accompagner pour être debout. Et ceux qui, malheureusement, vont être peut-être debout, mais qui vont... souffrir pendant des heures pour
parce que ça peut faire souffrir les prothèses, parce qu'il faut s'y habituer, parce que vous avez vous-même souffert.
Oui, bah, moi j'ai été opéré pour être appareillé. C'est-à-dire qu'on a quand même sculpté mon corps pour pouvoir mettre ces appareillages. Donc aujourd'hui, moi, je ne regrette pas ça du tout. Mais c'est vrai que des fois, on me dit, pourquoi tu ne mets pas une main ben parce que si je dois m'occuper plus de ma main que ma main s'occupe de moi, ça me pose un petit problème dans mon quotidien. Donc, et puis, comme je suis quelqu'un d'un peu agité, voilà, il faut faire attention à ne pas la tremper, pas la cogner, pas le machin. Bon, bref, j'ai vraiment besoin que... Moi, la vision de la prothèse, elle est là pour soutenir, pour compenser... Pour éviter de me limiter, pour faire réduire un peu les conséquences de mon handicap. Donc c'est vrai que moi j'ai de la chance d'avoir des prothèses, donc des fois quand il y a des marches ou des choses comme ça, je peux m'appuyer sur l'épaule, on peut m'aider, et ça c'est vraiment quelque chose de fabuleux. Mais après cette prothèse esthétique, parce qu'il faut rentrer dans les codes, et on sait que les phénomènes de mode, entre il y a quelques siècles où on adorait les femmes bien en chair et que maintenant il faut plutôt être et selon les civilisations, donc ces phénomènes de mode, c'est pas du pratico-pratique pour moi. Donc il y aura toujours quelqu'un qui va vous aimer parce que vous avez des formes, ou parce que vous êtes maigre, ou parce que vous êtes comme ci. Et bien il y aura des gens qui vous aimeront parce que vous avez des moignons ou des cicatrices et que ça leur posera pas de problème. Et c'est pas là-dessus que mon référentiel se pose pour faire le choix d'une prothèse.
Autour de la question, comment réparer les vivants, on le comprend, c'est donc d'abord en écoutant chaque personne, chaque individu. Il y a bien sûr de nombreuses façons de réparer, de se réparer. Vous l'avez dit, c'est pas la même chose si on est handicapé de naissance, suite à un accident. Je propose par exemple d'écouter un extrait du film documentaire qui s'intitule « Toujours debout », qui met en scène un parcours d'un autre grand vivant. C'est celui du chercheur Vance Bergeron, chercheur en physique au départ, grand sportif, devenu tétraplégique suite à un accident de vélo. Il a fondé au départ à l'ENS, École Normale Supérieure de Lyon, une start-up, Circles, qui développe des vélos et des rameurs à autostimulation à destination de handicapés pour des salles de sport, mais pour concevoir des salles de sport dédiées aux handicapés. Il est lauréat de la médaille de l'innovation du CNRS en 2019. Écoutez un extrait du documentaire « Toujours debout » consacré donc aux travaux de Vance Bergeron et de son équipe et à ses exploits pour rester debout.
On est bon ?
Oui.
Vas-y, vais monter.
Ça, c'est une chouette chaise roulante. Je vais te faire voir.
Il monte. C'est pas que ça qui est la chose de plus. Hein. Mais je ne peux bouger. Oui. Je peux bouger pendant que je suis debout. Et ça, c'est plus rare. Particulièrement pour une chaise aussi petite. Et ça, c'est une produit française. C'est un life stand. Mais les chaises, et ça, c'est les choses que j'aime, c'est ils bougent bien.
Et je suis comme dans le Segway, tu vois. Je vais
au marché avec ma fille, juste comme ça. Et personne ne me regarde trop. Il me regarde un petit peu comme ça, mais pas comme un handicapé. Et c'est plutôt comme un nouveau Segway.
Vance Bergeron, qui n'aime pas qu'on le regarde comme un handicapé. Riyad Salem, vous voulez réagir parce que Vance Bergeron m'avait aussi confié dans une émission qu'il n'aimait pas tellement le mot réparer, qu'il préférait celui d'être à son maximum. Et que lui disait, bon, il n'y a pas à me réparer, il y a à me faire accéder à toutes mes potentialités.
Après, moi, je ne porte pas de jugement parce que la pire des choses, c'est de se dire, je prends deux exemples. Quand j'étais petit, au Cercle sportif des Invalides, il y avait notre président qui s'appelait Georges Morin, qui était un ancien combattant de la guerre d'Algérie, qui avait sauté sur une mine et qui avait quasiment le même handicap que moi. Il ne cherchait pas à être appareillé. Il m'a décomplexé, parce que souvent, quand on est né avec un handicap, on veut ressembler aussi aux gens ordinaires. Et j'ai un autre collègue, qui est Cédric Nankin, qui est en équipe de France de rugby fauteuil, un des meilleurs joueurs aujourd'hui. Et pareil, quand il a été petit, on était dans cette culture de la verticalisation. Et à un moment donné, il a dit stop. C'est-à-dire que, en fait, ce n'est pas le fait d'être né avec un handicap ou avoir eu un accident, c'est un état d'esprit. Mmh. Et il y a des gens qui auront besoin de ça. C'est leur histoire. Et ça, ça ne rentre en rien en ligne de compte d'avoir eu un accident ou d'avoir eu d'être né handicapé. Et
là
après...
encore, moi, je mettais des gens dans des cases, finalement. Alors qu'au fond, c'est chacun avec son corps, avec ce qu'il est, avec ce qui lui manque ou pas.
C'est le piège. En fait, on doit créer des normes pour essayer de créer des systèmes de compensation. Mais après, par rapport au désir de la vie de l'individu, de ce qu'il veut faire de sa vie, mais comment notre société peut permettre le choix, liberté,
bien sûr,
la liberté
bien
de choisir. Vous avez un enfant handicapé, il est trisomique, on va vous dire, mais pourquoi vous n'avez pas avorté? Vous avez ça, ça veut dire que le jugement de notre société, il est cruel et il n'est pas juste tout le temps. La justesse et la justice qu'il doit y avoir, c'est quoi qu'il arrive, quel que soit votre choix, vous faites partie de la communauté des humains, comment ensemble on fait en sorte que vous souffrez moins, qu'on puisse compenser, qu'on puisse avancer et qu'on puisse faire en sorte que ces gamins aient le sourire ou ces personnes qui souffrent moins et réinvestissent leurs rêves.
Valérie Delattre, vous voulez ajouter quelque chose ?
Non, moi je trouve ça fascinant parce qu'en fait, ce discours-là éclaire totalement la démarche que j'ai en tant qu'anthropologue. Quand on fait de l'anthropologie, on fait de la sociologie. Alors il y a archéo devant. Archéo, c'est science. Donc il y a des données, il y a de la statistique, il y a des méthodes, etc. Il faut savoir s'affranchir aussi de ça. Une fois qu'on a enregistré toutes les données, il faut savoir s'interroger avec cet éclairage-là. Et quand on a...
Qu'est-ce que ça dit ?
Exactement.
Qu'est-ce que ça dit des hommes
Exactement.
Et des femmes ?
C'est-à-dire que on a une sépulture, un squelette avec une amputation, un appareillage ou pas, il est dans une fosse qui a été conçue par ses proches, avec du mobilier qui a été déposé par ses proches, il est dans un contexte, il y a une chronologie. Et mon rôle, le rôle de mes collègues qui travaillent avec moi sur une grande enquête, c'est de restituer ces comportements, de voir quel éclairage quelqu'un comme Riyad peut avoir sur la communauté contemporaine. Alors, il ne s'agit pas de plaquer des comportements, mais de s'interroger à chaque fois et de se dire si au XXIe siècle, on s'interroge sur comment faire, comment ne pas juger, ces questionnements ont eu lieu, y compris au temps néolithique où il a fallu prendre la décision d'amputer quelqu'un, de le trépaner, de l'accompagner pendant une convalescence fiévreuse, puis de l'accompagner dans une vie un petit peu diminuée, où il ne pouvait pas forcément être cultivateur, etc. Comment sa communauté familiale, villageoise, paroissiale, peu importe, se met à son service, si tant est qu'il ait besoin, pour l'accompagner dans sa vie. Et en fait, c'est ça. Moi, j'aime beaucoup écouter des propos de personnes qui sont concernées, qui ont un avis, qui ne sont pas dans le jugement et qui nous permettent à nous, une fois qu'on a toute notre batterie de données scientifiques,
Et ben, de pas plaquer notre...
On fait des sciences humaines. Voilà.
C'est ça,
de s'autoriser ce petit supplément et de se dire, voilà, moi, je suis chercheuse, mais je m'autorise à interpréter et à proposer en étant pas forcément au plus juste, mais au moins faux. Et toujours en se disant que les liens d'homme à homme ont toujours été les mêmes. On a toujours eu des proches, des enfants, des parents âgés, des problèmes de vue, vous le disiez, etc. Donc on a, l'homme est vulnérable. C'est pas
l'homme
un super-héros.
Est vulnérable,
voilà.
Et ça, il faut bien s'en rappeler.
C'est fascinant d'étudier ça.
C'est pas un super-héros, et en même temps, on voit bien que, pour le coup, le handicap est fêté quand ce sont des super-héros. C'est comme s'il y avait une injonction... On a le droit de... Ils sont plus invisibles d'un seul coup quand ils sont des super-héros. Alors, autour de la question comment réparer justement les vivants, et est-il obligatoire d'être un héros quand on est handicapé? On va quand même donner un coup de chapeau, parce qu'ils le méritent largement, à nos athlètes, avec tout de suite un petit mix paralympique signé Hugo Violas.
Inarrêtable. Les Français ont décroché 54 médailles en tout, bien au-delà de l'objectif de 35 fixé par la Fédération de Handisport.
Allez, Fabia Lanero, la première médaille est champion paralympique après un match très très disputé.
54 médailles, soit deux fois plus qu'à Rio. Mais quel est le secret de l'équipe tricolore?
Belle médaille d'argent pour Léa Fermé. C'était, on le rappelle, sa première participation à des Jeux paralympiques.
Image en direct du stade olympique, Mandy François-Elie, qui elle aussi a apporté bien la première médaille en para-athlétisme de cette équipe de France. Sur 200 mètres, une médaille de bronze.
Il
veut offrir à la France sa première médaille d'or aux Jeux paralympiques. 3 secondes, Alexandre Léauté est champion paralympique.
Est-ce qu'il faut automatiquement être un héros? Chapeau à nos héros, parce que ce sont des héros. Là, ce sont vraiment des athlètes de haut niveau. 54 médailles, bon, c'est fou, ça force le respect. Mais Riyad Salem, on se pose la question, vous-même, vous êtes un athlète paralympique, un athlète de haut niveau, pour qu'on les voit, pour qu'on les regarde. Ceux qui ont des corps différents, il faut qu'ils soient champions absolus.
Alors, je vais remettre peut-être les choses dans un autre contexte.
Voilà, allez-y.
Les Olympiques, quand ils rapportent des médailles, c'est des héros aussi.
C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
Les Paralympiques, c'est des héros aussi. Pourquoi?
Ah oui.
Parce que c'est une guerre, c'est un combat qu'on va mener pour faire briller notre pays, faire péter la Marseillaise, comme j'aime le dire. Et donc oui, c'est des héros à ce moment-là, parce qu'ils représentent chacun d'entre nous dans ce grand combat pacifique qui est les Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc oui, sous cet angle-là, oui, c'est des héros. Et je préfère des héros qui ramènent des médailles que des cadavres.
On est d'accord, voilà, on est d'accord. C'est, ça, c'est des vrais héros que, pacifiques. Hein,
voilà, c'est
sûr.
Des héros pacifiques. Et oui, cet angle du héros, sous cette forme-là, parce
c'est bien
que
et on en a besoin.
Ils se font du mal, ils s'entraînent beaucoup, il y a énormément de sacrifices. Voilà, et la majorité du mouvement olympique, les gens ne touchent pas des millions, faut le savoir. Donc c'est vraiment par passion, dans l'abnégation et aussi pour porter les couleurs de leur pays au plus haut niveau. Donc oui, là, dans ce contexte-là, c'est des héros.
Et ça force le respect encore plus quand il s'agit de paralympiques.
C'est parce que c'est notre culture. Voilà, on est en France, donc on a ce côté. Ça force le respect parce que dans le quotidien, les personnes handicapées, elles n'obtiennent pas leurs droits. Mmh. Et donc oui, quand on voit ça, et ben, d'un seul coup, on amalgame un peu les choses, on dépasse ce côté héroïque du mouvement olympique et paralympique pour, quelque part, l'amalgamer avec le quotidien de notre société. Mais si dans notre société, les personnes handicapées, l'accessibilité, leurs droits, l'accès à l'école, l'accès au travail, l'accès aux loisirs, l'accès à la santé, l'accès à tout, la vie du quotidien était garanti, je pense qu'on ne les appellerait pas les héros dans le milieu du handicap. Ils resteraient des héros du mouvement sportif.
C'est ça, en fait, il faut bien se rappeler que ce sont des héros, des héros du monde sportif. Mais vous avez l'impression que l'un nourrit l'autre. Vous êtes un militant associatif, vous travaillez beaucoup sur toutes ces questions. Est-ce que ça aide? Est-ce que les Jeux paralympiques, moi j'ai l'impression que ça aide quand même parce qu'on est fasciné, c'est fascinant, mais comment faire pour que ça dure un peu? Parce qu'on a l'impression qu'on en parle nous-mêmes ici uniquement au moment des Jeux paralympiques et ça c'est quand même grave.
Mais il n'y a aucune interdiction aux médias d'en parler tout le reste de l'année. On a des championnats de France, on a les championnats d'Europe, on a la Coupe du Monde. C'est quelque chose qui, comme si il y avait une espèce d'autocensure inconsciente.
C'est vrai.
Je veux dire, c'est les vibrations qu'on vient de vivre, le public, le peuple français qui découvre ces athlètes, parce que là, grand chapeau aussi à France Télé et à tous les médias qui ont joué le jeu. Mm-hmm. On n'a jamais eu autant de visibilité parce que ça a été un choix.
Et que, au début, a été un choix, mais ça marche, ça passionne. On est fasciné.
Mais parce qu'on a fait mentir les pronostics qui disaient qu'il n'y avait pas d'audimat, tout ça. Évidemment que si vous ne mettez pas en place la possibilité de rendre visibles les choses, l'audimat ne sera pas là. Ça me rappelle à une époque où on me disait, mais pourquoi vous voulez qu'on rende les bus accessibles? Il n'y a pas de personne handicapée en fauteuil qui les prend. Vous voyez, ce niveau d'intelligence-là, il est très complexe. Vous voyez, donc, il faut ramener les choses. Et après, le handicap, c'est du héros du quotidien. Des fois, se lever, sortir de chez soi, aller faire des cours, aller faire ses soins. Oui, ça aussi, c'est une autre forme d'héroïsme. Et on ne le prend pas sous cet angle-là. Des familles aujourd'hui, on sait que le handicap, c'est... Évidemment, il y a des gens comme nous qui avons réussi à sublimer tout ça, à dépasser, à être au-dessus de tout ça, mais ceux qui sont encore dedans, ceux qui viennent d'avoir une maladie, un accident, ceux qui n'arrivent pas à monter la pente. Et c'est la grande majorité, malheureusement. C'est des héros du quotidien.
Eux et
leur environnement, leurs parents, leurs familles, leurs amis.
Tous nos héros du quotidien, je vais dédier ce morceau qu'on va vous passer entre les oreilles et que vous m'avez fait découvrir, Riyad Salem. Rien que pour ça, je vous en remercie. Alors, le chanteur, il s'appelle Kaloun, retenez bien son nom, on va vous le remettre dans les oreilles. Et son morceau s'appelle, d'un air très gentil, « Aimez-vous ». Aimez-vous, oui, mais aimez-vous, bande de bâtards.
Quand on a
l'amour.
messieurs, dames, shalom alaikum, mais faut qu'on s'aime, car la vie est courte et qu'on s'entraide, serrons-nous les coudes. Les riches et les prolos, les flics et les voyous, les noirs et les fachos,
aimez-vous, aimez-vous.
Les élèves et les profs, assis ou debout, de droite ou de gauche,
aimez-vous, aimez-vous.
Que tu payes l'ISF ou bien,
non, pas vraiment.
Que tu touches le RSA,
plutôt.
Que tu sois boucher ou vegan,
aime-toi,
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 aimez-vous. Les pollueurs et les écolos,
aimez-vous.
Les féministes et les machos,
aimez-vous.
Les pervenches et les mal garés,
aimez-vous.
Bande de tarés,
aimez-vous.
Les patrons et les smicards,
aimez-vous.
Les enfants, les épinards,
aimez-vous.
Les puceaux et les pornstars,
aimez-vous.
Bande de bâtards.
Faut qu'on cesse de se faire du mal,
aimez-vous,
aimez-vous. Partout général, et faut qu'on s'aime, qu'on se régale,
aimez-vous,
aimez-vous. Partout général, et faut qu'on cesse de se faire du mal,
aimez-vous,
aimez-vous. Partout général, et faut qu'on s'aime, qu'on se régale,
aimez-vous,
aimez-vous. Partout général.
Les gentils et les cons, les psychiatres et les fous, les rivières et les ponts,
aimez-vous, aimez-vous.
Les moches et les beaux, le soleil et les roues, le silence et les mots,
aimez-vous, aimez-vous.
Ronces, orties, Uber, taxi, les nudistes et les burkinis, de jour, de nuit, lapin, fusil. Faites l'amour sans hypocrisie,
aimez-vous.
Les matheuses et les littéraires,
aimez-vous.
La main d'œuvre et les actionnaires,
aimez-vous.
Les chambres et les belles-mères,
aimez-vous.
Bande de pervers,
aimez-vous.
Les pauvres et les banquiers,
aimez-vous.
Les basques et les béarnais,
aimez-vous.
Les poussettes et les escaliers,
aimez-vous.
Bande d'enfoirés.
Faut qu'on cesse de se faire du mal,
aimez-vous,
aimez-vous. Partout général, et faut qu'on s'aime, qu'on se régale,
aimez-vous,
aimez-vous. Partout général, et faut qu'on cesse de se faire du mal,
aimez-vous,
aimez-vous. Partout général, et faut qu'on s'aime, qu'on se régale,
aimez-vous,
aimez-vous. Partout général.
Faut qu'on s'aime, faut qu'on se régale, Kalloun sur RFI. Merci Riyad Salem, rien que pour nous avoir fait passer ça entre les deux oreilles. Sacré message, c'est presque un hymne hein, en fait.
Ça me met en joie. C'est...
Aimez-vous qui que vous soyez, partout général, et on a le droit de ne pas être d'accord. Génial. On a quand même besoin, autour de la question comment réparer les vivants, on a besoin de tout le monde, de vous tous, pour nous réparer. Votre article à vous, Riyad Salem, dans cet ouvrage, s'intitule très joliment « De l'enfant en bois », Pinocchio, hein, jusqu'à l'homme en titane, jusqu'à l'athlète humain en titane. Alors jusqu'où peut-on aller ? Dans la réparation, dans l'amélioration, dans l'augmentation des corps, jusqu'au transhumanisme. Avant de vous laisser répondre à cette immense question, bien plus complexe, évidemment, qu'on l'imagine, je vous pose une dernière question soulevée par ma consoeur d'Epsilon, un nouveau magazine scientifique. C'est Mathilde de Fontaise qui en est la rédactrice en chef. On l'écoute. Aujourd'hui, on a l'impression de vivre un âge d'or hein, en termes de prothèses et de voir les choses exploser et tout un tas de possibilités devenir possibles avec la technologie. Est-ce que finalement, avec votre regard qui remonte beaucoup plus loin dans le temps que celui que moi je peux avoir, est-ce que c'est vraiment le cas ? Est-ce qu'on est vraiment dans une ère tout à fait spéciale de la prothèse aujourd'hui ? Qui veut répondre ? Valérie Delattre.
Alors, avec le regard que j'ai, moi, sur les siècles écoulés, les nouvelles technologies, les prothèses, les prothésistes qui apparaissent, Ambroise Paré, dont je parlais, je pense qu'on a toujours eu à corps de réparer un souci, un manque, un déficit. Les prothésistes ont toujours voulu compenser, aider, fabriquer, on parlait d'ingéniosité, un truc de briquet de broc, une pique pour aider à manger quelqu'un qui est amputé d'un avant-bras, par exemple. Je pense que aujourd'hui, on est dans une bascule puisqu'on ne veut pas que réparer, compenser. Compenser est un joli mot, il faut savoir. Voilà, on compense quelque chose qui peut être considéré comme étant injuste ou pas. Voilà, hein, le choix dont on parlait tout à l'heure. Donc, on peut compenser. Je pense qu'aujourd'hui, des arrière-pensées, peut-être un peu nauséabondes, se greffent à cette idée de réparation qui bascule vers une augmentation et une augmentation du corps qui n'est pas faite que pour tendre vers une sorte d'immortalité poétique et joyeuse, loin de là. Je pense que derrière cette envie de rendre le corps immortel, infatigable, se cachent des desseins avoués de faire des armées de gens qui peuvent travailler sans être fatigués, sans avoir d'entorse, sans avoir d'état d'âme. L'intelligence artificielle peut compenser tout un tas de personnes en RPS, avec du vague à l'âme, etc. Donc je pense que oui, il y a un âge d'or qui a été atteint et qu'on est dans un enjeu de civilisation, dans une espèce de bascule
dans laquelle il faut
s'interroger.
C'est ça, il faut
exactement
s'interroger. Vous vous posez la question, mais c'est même dans l'introduction, hein, vous vous demandez si nous serons des apprentis sorciers dangereux ou des magiciens inspirants, inspirants comme ce musicien Kaloun qu'on vient d'entendre, aimez-vous. Voilà, serons-nous aussi inspirants que vous, vous l'êtes, Riyad Salem, et que le sont les notamment les athlètes de haut niveau comme vous, notamment enfin les associatifs, ou notamment tous ceux qui travaillent autour de cette question des prothèses et du handicap. Qu'est-ce qu'on va être ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, quand on a créé Prothèse, je disais quelque chose à Valérie, et souvent, des fois, on avait du mal à palper ma pensée. C'était un peu le fait que l'homme se sent incomplet depuis toujours, en fait.
Mm-hmm. Depuis la naissance et depuis les origines, en
depuis
fait.
Depuis les origines, qu'il l'exprime.
Icar, le mythe d'Icar.
Voilà. Exactement. Il l'exprime à travers aussi ses dieux. C'est-à-dire qu'à chaque fois, les dieux étaient avec des forces soit naturelles, les éclairs, la force de l'eau, ou des pouvoirs surnaturels ou un mélange.
Riyad me disait, les dieux, tes dieux des panthéons grecs, c'est des héros de Marvel, rien
oui,
de plus.
C'est ça. Et comme moi, j'étais passionné des super-héros. Et je me disais, voilà, dans notre inconscient, ou même carrément dans notre être, je ne sais pas, parce que l'origine humaine, elle est assez complexe, mais en fait, le dieu est tout puissant. Et l'homme, comme il est à l'image de Dieu, il cherche cette toute puissance. Et c'est vrai que toute cette période où il répare et tout ça, là, on rentre dans une période où ces super-héros de Marvel, ou ces dieux antiques, qui étaient soit avec de la puissance du taureau ou de je ne sais quel animal, on peut le réaliser aujourd'hui. Après, ce que dit Valérie, moi, je pense que, comme dans tout, on a toujours le bon et le mauvais en nous.
Est-ce mais vous dites qu'on a toujours, enfin, en temps, c'est intrinsèquement humain que de chercher la toute-puissance à combler nos manques, et que là, on peut techniquement y arriver.
Maintenant, on peut y arriver.
Ouais. Moi, j'ai envie de dire, on n'a pas la sagesse qui va avec, mais ça, c'est encore autre chose.
Il y en a qui l'ont.
Il y en a qui
malheureusement, l'ont. Peut-être pas assez la majorité, qui n'ont pas conscience de ça. Mais moi, je voyais aussi ce truc en me disant, nous sommes la seule espèce vivante à pouvoir aller conquérir l'univers, qu'on sait que notre planète, elle aura une date de péremption, comme tout ce qui vit dans ce monde, dans l'univers, et que peut-être l'Arche de Noé, grâce à cette technologie, c'est quelle est l'intention qu'on va mettre derrière ? Peut-être qu'on va pouvoir faire fleurir Mars et peut-être d'autres galaxies, avec toutes ces histoires aussi d'extraterrestres, de machin. Je me dis, est-ce qu'il n'y a pas une voie qui peut aussi nous permettre de vivre plusieurs siècles pour pouvoir accomplir d'autres missions ?
Donc vous vous dites faut
il y a les deux, après je ne sais pas quel chemin on va prendre,
on ne sait pas, mais en tout cas écoutons notre propre fragilité, nos propres envies, mettons-nous ensemble, mettons tout ça sur la table. Ça serait une sorte de vœu pieux, mais c'est un peu ça le but. Et tout ce qui y concourt
est-ce que pour moi, voilà, la grande question, c'est est-ce que c'est rentrer encore dans ce monde économique de consommation, ou est-ce que c'est être au service, parce que Mère Nature, Dieu, ce que vous voulez, selon vos croyances, a fait de nous cette espèce qui avait cette capacité peut-être de sauver les autres espèces ou de les détruire.
De la robustesse du cyborg à la vulnérabilité de l'être humain. Je vous interromps parce que c'est le dernier chapitre de votre ouvrage Prothèse, et qu'on arrive tout à fait à la fin de cette émission. Merci infiniment à tous les deux d'être venus en direct. Je propose qu'on recommence bientôt, hors n'importe quel jeu, cette conversation. Vous revenez quand vous voulez tous les deux. On a besoin de vous plus que vous n'avez besoin de nous, je crois. Votre livre, dirigé donc à quatre mains, s'intitule Prothèse. Il est magnifique, coédité donc par l'INRAP et donc Caps Sport, art, aventure, amitié. Je ne l'ai pas dit, mais nous avons un exemplaire à vous offrir, que vous nous avez gentiment laissé, Valérie et Riyad. Donc, chers amis auditeurs, vous savez ce qu'il faut faire. Hein, contactez-nous avec votre adresse postale sur notre page Facebook ou par mail, et vous aurez droit à un exemplaire de cet ouvrage magnifique qui s'intitule Prothèse. Merci à vous deux. À lundi prochain, chers amis auditeurs. Merci pour votre curiosité, et surtout gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles, où que vous soyez et qui que vous soyez. 7 milliards